Livre 3, chapitre 1, grand 3. Après avoir déterminé en quoi consiste le système des interdits et quelles en sont les fonctions négatives et positives, il nous faut rechercher quelles causes lui ont donné naissance. En un sens, il est logiquement impliqué dans la notion même du sacré. Tout ce qui est sacré est objet de respect, et tout sentiment de respect se traduit, chez celui qui l'éprouve, par des mouvements d'inhibition. Un être respecté, en effet, est toujours exprimé dans la conscience par une représentation qui, en raison de l'émotion qu'il inspire, est chargée d'une haute énergie mentale. Par suite, elle est armée de manière à rejeter loin d'elle toute autre représentation qui la nie, soit en totalité, soit en partie. Or, le monde sacré soutient avec le monde profane un rapport d'antagonisme. Ils répondent à deux formes de vie qui s'excluent, qui, tout au moins, ne peuvent être vécues au même moment avec la même intensité. Nous ne pouvons pas être à la fois tout entiers aux êtres idéaux auxquels le culte s'adresse et tout entiers à nous-mêmes et à nos intérêts sensibles, tout entiers à la collectivité et tout entiers à notre égoïsme. Il y a là deux systèmes d'état de conscience qui sont orientés et qui orientent notre conduite vers deux pôles contraires. Celui qui a la plus grande puissance d'action doit donc tendre à repousser l'autre hors de la conscience. Quand nous pensons aux choses saintes, l'idée d'un objet profane ne peut se présenter à l'esprit sans se heurter à des résistances. Quelque chose en nous s'oppose à ce qu'elle s'y installe. C'est la représentation du sacré qui ne tolère pas ce voisinage. Mais cet antagonisme psychique, cette exclusion mutuelle des idées, doit naturellement aboutir à l'exclusion des choses correspondantes. Pour que les idées ne coexistent pas, il faut que les choses ne se touchent pas, ne soient d'aucune manière en rapport. C'est le principe même de l'interdit. De plus, le monde du sacré est par définition un monde à part. Puisqu'il s'oppose, par tous les caractères que nous avons dit, au monde profane, il doit être traité d'une manière qui lui soit propre. Ce serait méconnaître sa nature et le confondre avec ce qui n'est pas lui que d'employer dans nos rapports avec les choses qui le composent les gestes, le langage, les attitudes qui nous servent dans nos relations avec les choses profanes. Nous pouvons librement manier ces dernières. Nous parlons librement aux êtres vulgaires. Nous ne toucherons donc pas aux êtres sacrés, ou nous n'y toucherons qu'avec réserve. Nous ne parlerons pas en leur présence, ou nous ne parlerons pas la langue commune. Tout ce qui est en usage dans notre commerce avec les uns doit être exclu de notre commerce avec les autres. Mais si cette explication n'est pas inexacte, elle est pourtant insuffisante. En effet, il y a bien des êtres qui sont objets de respect sans être protégés par des systèmes d'interdiction rigoureuses, comme sont celles que nous avons décrites. Sans doute, il y a une sorte de tendance générale de l'esprit à localiser dans des milieux différents des choses différentes, surtout quand elles sont incompatibles les unes avec les autres. Mais le milieu profane et le milieu sacré ne sont pas seulement distincts, ils sont fermés l'un à l'autre. Entre eux, il y existe un abîme. Il doit donc y avoir, dans la nature des êtres sacrés, une raison particulière qui rend nécessaire cet état d'isolement exceptionnel et de mutuelle occlusion. Et en effet, par une sorte de contradiction, le monde sacré est comme enclin, par sa nature même, à se répandre dans ce même monde profane qu'il exclut par ailleurs. En même temps qu'il le repousse, il tend à s'y écouler, dès qu'il s'en laisse seulement approcher. C'est pourquoi il est nécessaire de les tenir à distance l'un de l'autre, et de faire en quelque sorte le vide entre eux. Ce qui oblige à ces précautions, c'est l'extraordinaire contagiosité du caractère sacré. Loin de rester attaché aux choses qui en sont marquées, il est doué d'une sorte de fugacité. Le contact, même le plus superficiel ou le plus médiat, suffit pour qu'il s'étende d'un objet à l'autre. Les forces religieuses sont représentées aux esprits de telle sorte qu'elles semblent toujours prêtes à s'échapper des points où elles résident, pour envahir tout ce qui passe à leur portée. L'arbre Nanja, où habite l'esprit d'un ancêtre, est sacré pour l'individu qui se considère comme la réincarnation de cet ancêtre. Mais tout oiseau qui vient se poser sur cet arbre participe du même caractère. Il est également interdit d'y toucher. Nous avons eu déjà l'occasion de montrer comment le simple contact d'un Shuringa suffit à sanctifier gens et choses. C'est d'ailleurs sur ce principe de la contagiosité du sacré que reposent tous les rites de consécration. La sainteté des Shuringas est même telle qu'elle fait sentir son action à distance. On se rappelle comment elle s'étend non seulement à la cavité où ils sont conservés, mais à toute la région avoisinante, aux animaux qui s'y réfugient et qu'il est défendu de tuer, aux plantes qui y poussent et auxquelles on ne doit pas toucher. Un totem du serpent a son centre en un lieu où se trouve un trou d'eau. Le caractère sacré du totem se communique à l'endroit, au trou d'eau, à l'eau elle-même qui est interdite à tous les membres du groupe totémique. L'initié vit dans une atmosphère toute chargée de religiosité, et il en est lui-même comme imprégné. Par suite, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il touche, est interdit aux femmes et soustrait à leur contact. Même l'oiseau qui l'a frappé de son bâton, le kangourou qui l'a percé de sa lance, le poisson qui a mordu à son hameçon. Mais d'un autre côté, les rites auxquels il est soumis et les choses qui y jouent un rôle sont d'une sainteté supérieure à la sienne. Cette sainteté se transmet contagieusement à tout ce qui évoque l'idée des unes ou des autres. La dent qui lui a été arrachée est considérée comme très sainte. Pour cette raison, il ne peut manger d'animaux qui ont des dents proéminentes, parce qu'ils font penser à la dent extraite. Les cérémonies du Kuringal se terminent par un lavage rituel. Les oiseaux aquatiques sont interdits aux néophytes parce qu'ils rappellent ce rite. Les animaux qui grimpent au faîte des arbres lui sont également sacrés, parce qu'ils sont trop voisins de Daramulun, dieu de l'initiation, qui vit dans les cieux. L'âme du mort est un être sacré. Nous avons vu déjà que la même propriété passe au corps où cette âme a résidé, à l'endroit où il est enseveli, au camp où le vivant a habité et que l'on détruit ou que l'on quitte, au nom qu'il a porté, à sa femme et à ses parents. Ils sont comme investis, eux aussi, d'un caractère sacré. Par suite, on se tient à distance d'eux. On ne les traite pas comme de simples profanes. Dans les sociétés observées par Dawson, leurs noms, tout comme celui du mort, ne peuvent être prononcés durant la période du deuil. Certains des animaux qu'ils mangeaient souvent peuvent aussi être prohibés. Cette contagiosité du sacré est un fait trop connu pour qu'il y ait lieu d'en démontrer l'existence par de plus nombreux exemples. Nous voulions seulement établir qu'elle est vraie du totémisme comme des religions plus avancées. Une fois constatée, elle explique aisément l'extrême rigueur des interdits qui séparent le sacré du profane. Puisque, en vertu de cette extraordinaire puissance d'expansion, le contact le plus léger, la moindre proximité matérielle ou simplement morale, d'un être profane suffit à entraîner les forces religieuses hors de leur domaine, et puisque, d'autre part, elles ne peuvent en sortir sans contredire leur nature, tout un système de mesures est indispensable pour maintenir les deux mondes à distance respectueuses l'un de l'autre. Voilà pourquoi il est interdit aux vulgaires non seulement de toucher, mais de voir, d'entendre ce qui est sacré. Pourquoi ces deux genres de vie ne doivent pas se mêler dans les consciences ? Il faut d'autant plus de précautions pour les tenir séparés que, tout en s'opposant l'un à l'autre, ils tendent à se confondre l'un dans l'autre. En même temps que la multiplicité de ces interdits, on comprend la manière dont ils fonctionnent et les sanctions qui y sont attachées. Par suite de la contagiosité inhérente à tout ce qui est sacré, un être profane ne peut violer un interdit sans que la force religieuse dont il s'est indûment approché ne s'étende jusqu'à lui et n'établisse sur lui son empire. Mais comme entre elle et lui il y a antagonisme, il se trouve placé sous la dépendance d'une puissance hostile et dont l'hostilité ne peut manquer de se manifester sous forme de réactions violentes qui tendent à le détruire. C'est pourquoi la maladie ou la mort sont considérées comme les conséquences naturelles de toute transgression de ce genre, et ce sont des conséquences qui passent pour se produire d'elles-mêmes, avec une sorte de nécessité physique. Le coupable se sent envahi par une force qui le domine, et contre laquelle il est impuissant. A-t-il mangé de l'animal totémique ? Il le sent pénétrer en lui et lui ronger les entrailles. Il se couche par terre et attend la mort. Toute profanation implique une consécration, mais qui est redoutable au sujet consacré et à ceux même qui l'approchent. Ce sont les suites de cette consécration qui sanctionnent en partie l'interdit. On remarquera que cette explication des interdits ne dépend pas des symboles variables à l'aide desquels peuvent être conçues les forces religieuses. peu importe qu'elle soit représentée sous la forme d'énergie anonyme et impersonnelle ou figurée par des personnalités douées de conscience et de sentiments. Sans doute, dans le premier cas, elles sont censées réagir contre les transgressions profanatrices d'une manière automatique et inconsciente, tandis que dans le second, elles passent pour obéir à des mouvements passionnels déterminés par l'offense ressentie. Mais au fond, ces deux conceptions, qui d'ailleurs ont les mêmes effets pratiques, ne font qu'exprimer en deux langues différentes un seul et même mécanisme psychique. Ce qui est à la base de l'une et de l'autre, c'est l'antagonisme du sacré et du profane, combiné avec la remarquable aptitude du premier à contagionner le second. Or, cet antagonisme et cette contagiosité agissent de même façon que le caractère sacré soit attribué à des forces aveugles ou à des consciences. Ainsi, bien loin que la vie proprement religieuse ne commence que là où il existe des personnalités mythiques, on voit que, dans ce cas, le rite reste le même, que les êtres religieux soient ou non personnifiés. C'est une constatation que nous aurons à répéter dans chacun des chapitres qui vont suivre.